Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Il y a 20 ans, le 9 septembre 2001, Ahmad Shah Massoud, surnommé le lion du Panjshir, célèbre héros de la résistance afghane, était assassiné par deux membres d'Al-Qaïda se présentant comme des journalistes. Deux jours plus tard, le 11 septembre 2001, aux États-Unis, quatre avions disparaissent des radars. À leur bord, des pirates de l'air s'apprêtent à commettre l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré sur le sol américain. Entre 8h et 10h du matin, le monde entier suit la tragédie en direct à la télévision. Les images des avions s'écrasant sur le World Trade Center et le Pentagone marquent toute une génération. Les tours jumelles s'effondrent en 102 minutes à peine. L'incendie s'éteindra 100 jours plus tard. Les deux attentats sont commandités par le même terroriste, Oussama Ben Laden. Pour les États-Unis, c'est le début d'une guerre de 20 ans, une guerre globale contre le terrorisme, une guerre qui se poursuit sans véritable issue en vue. Al-Qaïda a fait preuve de beaucoup de résilience et des groupes comme l'État islamiques qui ont émergé continuent de sévir. Le départ des troupes américaines d'Afghanistan et le retour des talibans ont été marqués par l'attentat du 26 août dernier à Kaboul, revendiqué par l'État islamique du Khorasan. C'est dire combien la chute du califat proclamé par Daesh n'a pas signé la fin de cette organisation ni de son idéologie mortifère. Le monde compterait 2 à 3 fois plus de combattants djihadistes aujourd'hui qu'au début du siècle. Quel usage a-t-il été fait de ces 20 ans ? Comment expliquer qu'en dépit des centaines de milliers de vies perdues et des sommes considérables dépensées, la menace soit encore si élevée? Le départ des Américains ouvre-t-il la page d'une pacification? Pour en discuter, nos invités par téléphone, Myriam Benrad, politologue, professeure associée en relations internationales à l'Institut libre d'études des relations internationales et pour plusieurs universités étrangères, spécialiste du Moyen-Orient. Son dernier ouvrage, « Terrorisme, les affres de la vengeance aux sources liminaires de la violence » qui vient de paraître aux éditions Le Cavalier Bleu, bonjour.
Bonjour.
En studio, Marc Ecker, directeur de recherche et de la valorisation à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère et co-auteur avec Elie Tenenbaum de La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, chez Robert Laffont, bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Et Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, bonjour.
Bonjour.
Les attentats du 11 septembre furent un choc incommensurable pour les États-Unis. George Bush les avait en son temps comparés à l'attaque surprise de Pearl Harbor en 1941. La réponse américaine fut le déclenchement d'une guerre globale contre le terrorisme, dont le premier théâtre fut l'Afghanistan, suivi 2 ans plus tard par l'Irak. Le régime taliban, qui avait refusé de livrer Oussama Ben Laden, fut balayé en quelques semaines et les camps d'entraînement d'Al-Qaïda furent détruits. Est-ce qu'on pouvait imaginer une seule seconde à l'époque, donc en 2001, que 20 ans plus tard, les talibans seraient de retour en Afghanistan, qu'Al-Qaïda allait être essaimé dans de nombreux pays? On peut parler d'un héritage du 11 septembre qui est plutôt amer. Et au-delà, est-ce que l'Amérique a, selon vous, gaspillé son moment unipolaire, Marc Ecker?
Gaspiller son moment unipolaire, je ne sais pas. Et en revanche, je vais répondre à la question d'avant. Est-ce qu'on pouvait imaginer ce scénario 20 ans plus tard? Très franchement, non. Quand on a vu le début de l'opération Enduring Freedom, les frappes sur l'Afghanistan et l'efficacité de cette opération militaire dans un premier temps, puisque les talibans ont été évincés en quelques semaines, les camps d'entraînement d'Al-Qaïda à l'époque ont tous été détruits. 80% des combattants de l'organisation ont été neutralisés, soit arrêtés, soit tués. Oussama Ben Laden et Zawahiri sont partis dans la clandestinité avec une épée de Damoclès sur leur tête. Très franchement, à ce moment-là, beaucoup de gens pensaient que c'était quasiment terminé. Et on voyait toute l'importance de la puissance américaine, le déploiement de cette force qui semblait irrésistible. C'est la suite qui s'est révélée très compliquée avec le développement d'insurrections que les États-Unis et leurs alliés n'ont pas réussi à réduire. Et on a vu aussi l'erreur magistrale de 2003, la guerre en Irak, qui a relancé la mouvance djihadiste, la mouvance Al-Qaïda. Mais en 2001, après les premières semaines de cette guerre, on ne s'imaginait vraiment pas que 20 ans plus tard, il y aurait 2 à 3 fois plus de djihadistes dans le monde et que les talibans seraient de retour à Kaboul.
Myriam Benrad.
Je suis assez d'accord avec ce constat. Le problème aussi, c'est qu'on a confondu la lutte contre le terrorisme après le 11 septembre 2001 avec finalement des enjeux autres comme le state building, le nation building, ces fameux projets américains, à la fois en Afghanistan, en Irak, qui se superposaient ou se juxtaposaient à la lutte antiterroriste, mais pas toujours de manière claire. En fait, très rapidement, on s'est aperçu que les États-Unis eux-mêmes étaient complètement confus quant aux objectifs poursuivis. Alors certes, ils ont tué Ben Laden en 2011, un certain nombre de chefs des mouvances djihadistes, mais dans le même temps, et c'est le grand paradoxe, le fiasco de ces guerres, tout le processus de reconstruction, de transition dans ces pays qui était largement improvisé parce qu'ils n'avaient pas de plan en réalité en partant à la fois en Afghanistan et en Irak, ou des plans vraiment très minces, ont créé ces projets donc échoués, ont créé des conditions d'expansion de cette menace même qu'ils étaient partis combattre au premier plan. Donc on est vraiment dans cette confusion, cette impréparation, cette même, je dirais, improvisation. D'ailleurs, que les forces américaines ont elles-mêmes ressenti. Il y a eu ce désenchantement très vite qui s'est installé au sein de l'armée américaine et qui conduit aujourd'hui, on le voit, donc à finalement au statu quo ex ante, c'est-à-dire le retour des talibans qui sont toujours les mêmes, on le voit aussi, et puis dans le cas de l'Irak et d'autres pays, des États faillis, des nations en tout cas qui n'en sont plus, et on n'a pas de formule aujourd'hui claire sur ce qui pourrait permettre de pacifier ces sociétés. Mmh. Donc c'est très inquiétant aussi, bien sûr, pour nous, parce qu'on va continuer à en ressentir les effets, et ce ne sont pas des effets légers, on l'a vu avec le terrorisme, la question des migrations, etc.
On reviendra sur la question du retour des talibans, bien sûr. Elie Tenenbaum, Myriam Benrad, dans son ouvrage, cite le politologue américain Ian Lustig, selon lequel les pirates du 11 septembre ont d'une certaine manière piégé les États-Unis dans un cycle interminable de vengeance et de représailles, remportant in fine leur plus belle victoire avec le déclenchement de plusieurs guerres.
Oui, absolument. Et c'est effectivement la fonction même du terrorisme, ou la mécanique même du terrorisme, qui n'est pas spécifique d'ailleurs au terrorisme djihadiste, que de fonctionner sur le couple provocation sur réaction. Le terroriste est un acteur qui est matériellement en infériorité face à son adversaire, et il le provoque, il le pousse à la faute dans une provocation aussi spectaculaire, aussi brutale que possible. Et évidemment, l'événement monde que constitue le 11 septembre est la provocation ultime, d'une certaine manière, la provocation d'une Amérique, comme vous l'avez dit, au fait de sa puissance à ce moment-là, et qui est ciblée en son cœur, alors même que elle semble invincible. Et du coup, la réaction est à la mesure de la provocation, et malheureusement, assez rapidement, sort de son lit, et je pense que vous avez raison quand vous parlez de ce gâchis du moment unipolaire américain. L'Amérique avait acquis un capital de sympathie considérable au lendemain, au soir même du 11 septembre. Faut bien se rendre compte que de l'éditorial du Monde, nous sommes tous américains, jusqu'aux condoléances annoncées par le régime des Mollahs en Iran, qui pouvait pas franchement être soupçonné de pro-américanisme, il y avait une forme d'unanimité à ce moment-là, et une juste colère qui a été d'ailleurs avalisée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour la première réaction, qui était celle de l'action en Afghanistan. Mais peu à peu, finalement, la réponse à la menace terroriste est sortie de son lit. Les Américains ne cessaient de le dire, on va enlever les gants, maintenant on prend plus de gants, mais ils se sont permis un certain nombre de choses. D'abord, sur le plan du droit international, dans la réponse du contre-terrorisme, on sait, il y a les questions de la surveillance généralisée, il y a les questions des sites clandestins de la CIA, de l'utilisation de la torture, et puis, au niveau géopolitique, effectivement, ça a été dit, le mélange entre guerre contre le terrorisme et tout un tas d'autres projets de changement de régime, de renversement de régime considéré voilà, à tort ou à raison comme lié au terrorisme, souvent de manière extrêmement spécieuse, c'était le cas particulièrement de l'Irak, qui est venu décrédibiliser la cause de la lutte contre le terrorisme, la mêler à tout un tas d'agendas perçus comme plus ou moins impérialistes et en tout cas clairement déstabilisateurs pour la scène internationale, qui faisait que quelques années après, seulement après le 11 septembre, l'image de l'Amérique était au tréfonds, en particulier dans le monde musulman et surtout dans le monde arabe, mais pas uniquement. Et finalement, ils ont eu beaucoup de mal à remonter la pente. Et la lutte contre le terrorisme reste encore aujourd'hui teintée de ce dévoiement qui est arrivé assez rapidement.
Alors, les attentats du 11 septembre, ils ont marqué ce qui peut-être ne s'était pas révélé jusqu'alors. En tout cas, c'est la vulnérabilité, c'est la fragilité du monde. Les États-Unis attaqués en leur cœur, si loin des foyers de tension du monde. Marc Ecker, la guerre d'Irak, ça a été la guerre de trop?
Oui, ça a été la guerre de trop. C'était Elie Tenenbaum vient de le rappeler. Hein, des motifs spécieux ont été employés pour la justifier. Je rappelle ces deux motifs, des liens supposés entre Al-Qaïda et Saddam Hussein et l'existence supposée d'armes de destruction massive en Irak qui auraient du coup pu être transmises à Al-Qaïda. En réalité, ces deux motifs étaient faux et une partie de la communauté internationale le savait. C'est pour ça que la France et d'autres pays comme l'Allemagne ont refusé de s'engager dans cette guerre. Et c'est clairement en Irak que la mouvance Al-Qaïda, qui avait subi un coup très dur en Afghanistan, a pu se relancer. Al-Qaïda, à partir de là, a misé sur sa stratégie de décentralisation, qui s'est notamment caractérisée par l'ouverture de filiales, entre guillemets, dans différentes zones. Et la première filiale a été Al-Qaïda en Irak, avec à sa tête Zarqawi, dont on se souvient parce que c'est lui qui a enclenché la logique de guerre civile entre chiites et sunnites. C'est lui aussi qui s'est mis à égorger des otages en tenue orange pour rappeler Guantanamo devant la caméra, avec cette logique de médiatisation et vraiment cette stratégie de terreur. Et dans le fond, c'est aussi dans cette organisation d'Al-Qaïda en Irak qu'on trouve les racines profondes de Daesh, puisque Abou Bakr al-Baghdadi est arrivé à la tête de cette organisation en 2010, organisation qui avait pris le nom d'État islamique d'Irak. Entre les deux, entre Zarqawi qui est mort en 2006 et Baghdadi, il y a eu deux autres émirs qui n'ont pas réussi à développer un projet de gouvernance locale et se sont vraiment aliénés les populations et ont fini par être isolés puis éliminés. Donc oui, en Irak, effectivement, il y a eu vraiment la relance de la mouvance djihadiste.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, bilan 20 ans après, Myriam Benrad, 20 ans après, donc début de la guerre contre le terrorisme, l'ennemi pour les Occidentaux n'a pas disparu et les terroristes n'ont pas été éradiqués.
Non, parce que, comme on l'a déjà souligné, précisément, c'est une sorte de mécanique infernale. Bon, moi, si je reprends le cadre théorique que je développe dans mon ouvrage autour de la vengeance, cette vengeance terroriste, c'est le maître mot des djihadistes et puis de toutes les mouvances terroristes en réalité. Elle n'a fait que nourrir des réactions, alors qui ne se présentaient pas comme vengeresses, mais enfin tout de même qu'ils le sont devenus au fur et à mesure des attentats, parce que sincèrement, il est tout à fait normal que les populations touchées par le terrorisme aient été tentées par une sorte de vindicte. Les États eux-mêmes, sans le dire, ont commencé à pratiquer une sorte de vengeance tous azimuts face à cette expansion. Et donc on est dans un cycle de contagion de la violence, de représailles perpétuelles, et c'est toute l'impasse en fait de la lutte antiterroriste. Est-ce que maintenant on peut faire autrement? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a, comme je l'ai dit, des États faillis, des nations effondrées, des sociétés totalement fragmentées, avec des populations locales elles-mêmes qui sont très suspicieuses entre communautés qui ont fait les frais d'une violence monumentale. On l'a connu aussi, cette violence, avec les attentats qui nous ont frappés. Mais on est dans ces sociétés, dans une forme d'état de barbarie, pour reprendre l'expression de Michel Seurat. On est dans une violence généralisée. Donc aujourd'hui, que faire? Malheureusement, je crois que le retrait américain, on va y revenir, mais le retrait américain d'Irak, puis d'Afghanistan et puis des alliés, montre qu'on n'a plus de solution en fait aujourd'hui en Occident. On n'a plus de stratégie, on n'a plus de vision, on est complètement pris à la gorge par cette violence. Est-ce que les populations locales peuvent s'en sortir seules? On voit avec l'exemple afghan que ces populations sont complètement en fait otages et ont très peu de moyens de résistance. Donc c'est une situation, en tout cas pour les populations locales, désespérée.
Alors l'Afghanistan, on reste dessus, Elie Tenenbaum. Les talibans sont à nouveau au pouvoir. Des interlocuteurs que j'ai eus, afghans, parlent d'une invasion du Pakistan, donc victoire du Pakistan avec le retour des talibans en Afghanistan. Et est-ce que finalement le retrait américain, qui est un retrait qui ne s'est pas fait sous la contrainte. Il y avait un agenda de politique intérieure pour Joe Biden avec les célébrations du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. On parle d'affaiblissement des États-Unis. Enfin, voilà, où est-ce qu'on en est par rapport à tout cela?
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Sur la question du Pakistan, elle n'est pas ancienne, elle est même primordiale et évidemment dès la naissance de l'histoire du mouvement des talibans. Le mouvement n'a pas été créé, comme on le lit parfois, par les Pakistanais, mais il a été soutenu très tôt dans les années 90 par les Pakistanais qui cherchaient tout d'abord, faut se rappeler que l'Afghanistan était en état de guerre civile et donc a disposé sur sa frontière orientale d'un état ami avec à sa tête un régime dont il pouvait être certain qu'il ne serait pas tenté d'une alliance de revers, comme ça s'est vu parfois dans l'histoire de la région, entre l'Inde et l'Afghanistan. Et finalement, c'est ça qui a motivé jusqu'à aujourd'hui le Pakistan, à travers ses services de renseignement, à apporter un soutien qui n'a jamais été inconditionnel ni totalement aveugle au mouvement des talibans afghans. Et il y a eu des histoires complexes. Le Mollah Baradar, actuellement vice-premier ministre, qu'on a beaucoup vu, qui était négociateur à Doha, a été emprisonné par les Pakistanais entre 2010 et 2018, qui montre aussi toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans les relations entre le Pakistan et les talibans. Il y a une instrumentalisation mutuelle. Mais voilà, on peut pas non plus mettre un signe égal entre les deux acteurs. Et puis surtout, le mouvement des talibans a su s'émanciper de son tuteur pakistanais vis-à-vis duquel ils étaient effectivement dans un état de dépendance élevé après leur défaite de 2001. Dans la dernière décennie, on a vu des talibans à Doha au Qatar, des talibans en Iran, des talibans en cheville avec la Russie, et donc aussi s'émanciper de ce tête-à-tête talibano-pakistanais qui n'a jamais été le souhait du mouvement taliban en tant que tel. Ensuite, sur la deuxième partie de la question, sur l'échec américain, effectivement un aveu d'impuissance en tout cas, l'aveu d'impuissance proposé quelque chose d'autre à l'Afghanistan, finalement, que ce régime des talibans, l'incapacité à avoir construit, et qui n'est plus une incapacité américaine, mais il faut qu'on en prenne aussi notre part de responsabilité, européens qui avons accompagné l'Amérique dans ces 20 années de guerre en Afghanistan, la communauté internationale, les bailleurs de fonds, les ONG, 2000 ONG qui étaient actives en Afghanistan en 2002, tout ce petit monde de l'action internationale qui s'est révélé totalement incapable de porter une alternative politique, sociale, économique, crédible, capable de se tenir sur ses deux pieds pour la société afghane, une société en transformation. Et finalement, tout ce qu'on a réussi à produire, c'était les régimes corrompus, incompétents d'Hamid Karzai et d'Ashraf Ghani, qui se sont effondrés comme des châteaux de cartes au moment où effectivement l'Amérique, de guerre lasse, et je pense que c'est véritablement l'expression, a décidé de retirer ses billes, aussi dans une logique de réorientation stratégique vers ce que Joe Biden, et il n'est pas le seul, estime comme le véritable défi du 21e siècle et qui a considéré depuis longtemps la guerre contre le terrorisme et l'Afghanistan en particulier comme une forme de distraction stratégique qui était dommageable aux intérêts fondamentaux des États-Unis. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette image terrible, évidemment, d'une Amérique qui cesse les frais et qui part en laissant la victoire à ceux qu'elle avait vaincu à plate couture en quelques semaines à la fin de l'année 2001.
Alors, effectivement, la question qui peut se poser, je la pose moi-même sans attendre vos réponses, qu'on n'aura pas le temps pour cette première partie d'émission, mais on y reviendra dans la deuxième partie. C'est ce que finalement, laisser quelques soldats américains n'aurait pas empêché précisément le retour des talibans. Et Elie Tenenbaum parlait de l'émancipation des talibans du tuteur pakistanais. Mes interlocuteurs en Afghanistan soulignent que la plupart des talibans aujourd'hui en Afghanistan sont précisément nés au Pakistan, avec des familles qui sont restées sur place. Et il évoque la complicité occidentale par rapport à ce qu'il qualifie d'invasion de l'Afghanistan par le Pakistan. On vous retrouve, Elie Tenenbaum, Marc Ecker et Myriam Benrad, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les attentats du 11 septembre 2001, 20 ans après. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Myriam Benrad, politologue, professeure associée en relations internationales à l'Institut libre d'études des relations internationales et pour plusieurs universités étrangères. Spécialiste du Moyen-Orient, son dernier ouvrage, Terrorisme, les affres de la vengeance aux sources liminaires de la violence, qui vient de paraître aux éditions Le Cavalier Bleu. Et en studio, Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI et co-auteur avec Marc Ecker de La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle chez Robert Laffont. Et Marc Ecker, directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je posais la question à la fin de cette première partie d'émission sur, bien sûr, le retrait américain d'Afghanistan. Est-ce que laisser quelques soldats états-uniens en Afghanistan n'aurait pas empêché le retour des talibans? Et cette autre question aussi, Marc Ecker, le matériel militaire récupéré par les talibans, est-ce qu'on peut parler de faute sécuritaire américaine?
Je vais répondre à la première question, peut-être qu'Elie Tenenbaum voudra répondre à la deuxième. J'ai posé moi cette question précisément à des militaires, à des officiers français, combien d'hommes il aurait fallu laisser sur place pour tenir au moins Kaboul et Bagram? Et la réponse qui m'a été faite, c'est compte tenu du scénario qui s'est déroulé, c'est-à-dire l'effondrement complet de l'armée nationale afghane, il aurait fallu probablement laisser plusieurs dizaines de milliers d'hommes, le chiffre de 40 000 a même été avancé, pour tenir donc la capitale qui a la caractéristique d'une cuvette et qui est donc pas facile à défendre, et Bagram. Le Pentagone a lui-même communiqué simplement sur Bagram, puisqu'il y a eu une polémique sur cet aéroport, et a donné le chiffre de 8 000 hommes pour sécuriser l'aéroport de Bagram. Ceci étant, on note quand même que de 2017 à 2020, donc avant la signature de l'accord de Doha, les États-Unis avaient grosso modo entre 10 et 15 000 hommes dans le pays, et avec une armée nationale afghane certes imparfaite et même pétrie de dysfonctionnements, ça tenait. C'est-à-dire que les grandes villes, au moins Kaboul, n'étaient pas aux mains de l'insurrection. Évidemment, il y avait régulièrement des attentats dans ces villes, y compris à Kaboul, mais on avait l'impression quand même que, avec 10-15 000 hommes, plus une armée nationale afghane au moins partielle, ça pouvait à peu près tenir et ça aurait permis aux États-Unis d'avoir une emprise dans le pays et du coup d'être beaucoup plus réactif en termes de contre-terrorisme, d'avoir davantage de renseignements et aussi d'avoir leur mot à dire dans l'évolution politique de ce régime.
Elie Tenenbaum.
Oui, alors il faut rajouter à ça une dimension très souvent occulté dans la guerre d'Afghanistan, mais qui vaut également pour l'Irak et d'autres conflits, c'est l'externalisation d'une partie de ce soutien. C'est-à-dire qu'on a pendant longtemps eu, comme disait Marc, une dizaine de milliers de soldats américains, mais on était entre 20 et 30 000 contractors qu'il fallait rajouter, donc des prestataires de sociétés privées de sécurité, mais aussi qui faisaient clairement fonctionner la logistique, tout un tas de choses qui permettaient par exemple à l'armée afghane de faire fonctionner son matériel. Et ces gens-là sont aussi, pour une bonne partie d'entre eux, partis dans cette évacuation américaine. Et donc on a eu tout d'un coup des logiciels qui fonctionnaient plus, des munitions qui n'étaient plus livrées aux casernes, et vous avez une forme d'implosion logistique du système. Et ensuite, le dernier point, c'est la dimension non matérielle, la dimension morale de ce que représentait cette présence américaine. Sur les derniers mois, la dernière année, on avait 2500 militaires américains. C'était évidemment pas 2500 militaires américains qui permettaient de tenir le pays. En revanche, leur présence, la présence de quelques avions américains à Bagram, avait un effet moral important sur l'armée afghane, et le départ auquel une bonne partie des Afghans ne croyaient pas, malgré les déclarations, parce qu'il y a eu tellement de déclarations de départ. Depuis 2011, les Américains, presque tous les ans finalement, annonçaient un prochain départ d'Afghanistan. Et donc finalement, les Afghans avaient fini par ne plus y croire. Au moment où c'est véritablement arrivé, il y a une espèce d'effet de sidération. Et à partir du moment où ça s'est convergé avec une offensive effective des talibans, qui, il faut le dire, contrôlait en fait la majorité des campagnes du pays. En fait, ce qui restait, c'était des enclaves. Et donc on a un biais médiatique aussi, parce que c'était les villes qui restaient tenues, et donc là où les journalistes occidentaux pouvaient aller, on avait l'impression d'un pays qui était tenu, mais dès que vous sortiez un petit peu dans les campagnes, en fait, on était en pays taliban. Il y a eu quelques très beaux reportages qui ont été faits d'ailleurs là-dessus par vos confrères, et en fait, voilà, l'armée s'est effondrée par cette espèce de moment. Les Américains nous lâchent, les talibans arrivent. Et en fait, sur les dernières semaines, vous avez eu très très peu de combats. Il y a eu aussi une offre très intelligente de la part des talibans de reddition, en disant écoutez, rendez les armes, vous avez perdu et on ne vous massacrera pas. Les talibans ont offert une voie de sortie à l'armée afghane, ce que n'avait pas fait nécessairement Daesh ou d'autres acteurs en scène. Et tout ça, c'est combiné pour avoir le résultat qu'on a eu extrêmement rapide.
Alors, peu de résistance, mais il est vrai aussi que peut-être la population afghane n'avait pas complètement le choix. Marc Ecker, je sais que vous voulez rajouter quelque chose. Après ça, je passerai la parole à Miriam Benrad. Marc
Ecker. Oui, une toute petite précision, parce que Elie Tenenbaum vient de mentionner la présence de 2500 militaires américains dans les dernières semaines, les derniers mois. Et Joe Biden a utilisé cet argument. En fait, il faut voir que l'accord de Doha de février 2020 prévoyait le fait que, pendant cette période de retrait, les talibans n'attaqueraient pas les États-Unis. Et c'est pour ça que Joe Biden a dit que cette période-là ne pouvait pas être considérée comme la normalité. Mmh. C'était une exception. Et il a justifié aussi le retrait en disant « mais si on ne se retire pas à ce moment-là, il faudra réinvestir massivement le pays si on veut maintenir un semblant de sécurité. »
Alors, Myriam Benrad, deux questions. Que change finalement le départ des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme? Et est-ce que le retour des talibans est une bonne nouvelle pour la cause djihadiste mondiale?
Alors, ne serait-ce que sur le plan symbolique, oui, ça l'est, parce que ça envoie un message fort. Ça envoie le message que l'Occident est vraiment défait, parce que, comme je l'ai dit, on est revenu vraiment à la situation antérieure à 2001, c'est-à-dire un pays sous contrôle des talibans, sachant que l'Afghanistan est particulièrement emblématique, puisque c'est le terrain par excellence du djihad depuis l'époque soviétique, en fait. Donc, beaucoup des djihadistes ont fait leurs armes en Afghanistan, et même ceux qui n'ont pas fait leurs armes en Afghanistan ont hérité d'un imaginaire collectif qui est profondément lié à ce pays. Donc même si les talibans s'en défendent en disant qu'ils sont dans une logique de gouvernance, je dirais d'abandon en quelque sorte de la lutte armée maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ce n'est pas perçu du tout de cette manière par d'autres mouvements, à commencer par l'État islamique qui a revendiqué, on l'a vu, un certain nombre d'attentats et qui va sans doute en commettre d'autres puisqu'il est en conflit ouvert avec les talibans sur un certain nombre de points. Et puis après, on a toute la mouvance djihadiste transnationale plus large qui y voit un feu vert. Il faut dire les choses, qui finalement, indépendamment de ce que disent les talibans et du programme des talibans, pour leur part, voilà une fenêtre d'opportunité historique. Donc il est vrai que c'est très inquiétant parce que ça va redonner un coup de fouet à des mouvances qui par ailleurs avaient pu être affaiblies. Et surtout, une dernière chose, on est dans une logique globale de retrait occidental sur le plan militaire. C'est valable pour le Sahel et pas seulement pour le Moyen-Orient. Donc c'est très inquiétant.
Elie Tenenbaum, vous partagez, fenêtre d'opportunité historique?
Ah, complètement. Je ne peux pas souscrire plus à ce que vient de dire Myriam Benrad. L'Afghanistan a un statut quasi mythique dans l'univers djihadiste et vient d'une certaine manière de le redoubler avec cette deuxième victoire. Ils ont vaincu l'armée soviétique, première armée du monde à l'époque. Ils ont aujourd'hui vaincu l'armée américaine. C'est l'Afghanistan et ce triomphe des talibans qui fait rêver les djihadistes du monde entier, et on l'a vu dans les communiqués de félicitations, que ce soit du groupe pour le soutien à l'islam et les musulmans au Sahel, Iyad Akhali, Hayat Tahrir al-Sham dans la région d'Idlib, en Syrie, vraiment à travers le monde, ces communiqués de félicitations, au moins dans le pôle caïdiste, Al-Qaïda de cette mouvance djihadiste transnationale. Du côté des gens de Daesh, il y a une attitude un peu plus ambivalente, avec à la fois évidemment une forme de jalousie et puis une méfiance vis-à-vis de la manière dont les talibans ont vaincu, c'est-à-dire avec une négociation quand même avec les Américains, et ça on pourra en parler aussi de cette bipolarisation du monde djihadiste et du côté assez politique aujourd'hui des filiales type Al-Qaïda. Mais oui, ça surstimule ce monde-là. Maintenant, sur le plan opérationnel et organisationnel, aujourd'hui, et on va voir comment les choses s'organisent avec le nouveau gouvernement de transition des talibans, si on va avoir un retour finalement à la politique de havre ou de sanctuaire qui était celle des années 90. Moi, je pense qu'on ne va pas forcément assister à ça, et on ne va pas forcément avoir à nouveau l'Afghanistan jouer sur le plan organisationnel et quasi logistique, hein, le rôle de plaque tournante du djihadisme qu'on avait vu, mais ça reste une possibilité, un risque, et ça va dépendre aussi des choix politiques qui sont en train d'être faits aujourd'hui à Kaboul. Et j'avoue que la position du gouvernement qui a été annoncée cette semaine par les talibans donne quand même matière à inquiétude en fonction d'un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui sont mises en avant et qui posent véritablement en question, dont des gens qui sont sur des listes de sanctions internationales pour leur lien avec le terrorisme.
Parce que ce sont effectivement les plus durs aussi des talibans. On y reviendra dans l'émission de demain. Marc Ecker, est-ce qu'on peut dire que finalement aucun des objectifs américains n'a été atteint en Afghanistan et au-delà de cela, l'attentat du 26 août revendiqué par l'État islamique du Khorasan, quelle lecture faut-il en faire ?
Sur les objectifs d'abord, Joe Biden et son administration n'ont cessé de répéter que c'était un succès. Je crois que ces paroles ne trompent personne. Si on reprend les objectifs stratégiques tels qu'ils avaient été définis par George W. Bush en 2001 au lendemain du 11 septembre, c'était l'éradication d'Al-Qaïda et de tous les groupes terroristes de portée globale, et c'était également l'élimination des groupes locaux soutenant ces groupes internationaux. Or, Al-Qaïda est toujours là en Afghanistan, que ce soit Al-Qaïda central ou ce qu'il en reste autour de Zawahiri. On ne sait d'ailleurs pas bien s'il est en Afghanistan ou du côté pakistanais de la frontière, ou alors Al-Qaïda dans le sous-continent indien, qui est la branche régionale d'Al-Qaïda, créée en 2014. Donc ces objectifs-là, ils n'ont pas été atteints. Et bien sûr, avec les talibans au pouvoir, eh ben, on voit bien que les alliés locaux n'ont pas été vaincus. Et pire que ça, ils ont gagné.
Alors, comment la mission de contre-terrorisme va pouvoir se poursuivre ? Comment la stratégie américaine va-t-elle pouvoir évoluer dans la situation qui est la situation présente, Marc Ecker, et après ça, je passe à la parole à Myriam Benrad.
Toute la thèse de notre livre, La guerre de 20 ans avec Eli Tenenbaum, consiste à dire qu'on arrive à la fin d'un cycle stratégique. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la guerre de 20 ans. C'est-à-dire que le cycle s'est ouvert en 2001 et se termine en 2021. Et le retrait d'Afghanistan a en fait une portée bien plus large. C'est véritablement la volonté de l'administration américaine de fermer la parenthèse, de clore le chapitre de la guerre globale contre le terrorisme. Donc c'est la fin d'un cycle stratégique, mais l'adversaire, l'ennemi est toujours là. Il est plus nombreux qu'il y a 20 ans, vous l'avez dit, et il est toujours déterminé à frapper. Du coup, il va évidemment encore y avoir du terrorisme, et donc la lutte contre le terrorisme va devoir se poursuivre, mais elle va se poursuivre selon des modalités plus légères, en particulier en termes militaires, c'est-à-dire que ce sera des frappes à distance, Joe Biden l'a répété à plusieurs reprises, hein, « over the horizon », du renseignement évidemment, mais du renseignement moins humain parce qu'ils ont perdu un certain nombre de sources localement, et puis ponctuellement des raids de forces spéciales. Et la stratégie de Joe Biden, quand il était vice-président d'Obama, était le contre-terrorisme plus. Le plus, c'était la formation des armées locales. Donc l'idée, c'était surtout de laisser ces pays se débrouiller seuls au bout d'un moment, de reconstruire les structures étatiques. Et évidemment, dans la structure étatique, une clé de voûte, c'est l'armée. Or là, en Afghanistan, on a vu que l'armée nationale afghane s'est effondrée. Donc le plus a sérieusement du plomb dans l'aile et on se demande bien du coup comment les États-Unis vont réussir à maintenir des capacités suffisantes pour contrôler un minimum la situation. Je pense qu'ils comptent aussi sur l'engagement des États voisins pour contenir une menace qui, pour eux aussi, est très dangereuse.
Alors, dans les États voisins, il y a bien sûr le Pakistan, on y revient. Marc Ecker évoquait le fait que les Américains étant partis d'Afghanistan, eh bien, il y avait moins de renseignements humains. Ce qu'on peut constater tout de même, Myriam Benrad, c'est que même présent, il semble bien que le renseignement américain n'ait pas fait preuve de beaucoup d'ingéniosité.
Ça, c'est une question particulière parce que pour ma part, je pense que le renseignement américain savait très bien ce qu'il se passait. On a présenté l'offensive des talibans comme éclair, spectaculaire, mais ça s'étend sur plusieurs années. Je dirais après le retrait des forces françaises, dès 2013-2014, on voit bien que les talibans sont à la manœuvre. Donc le renseignement américain ne pouvait l'ignorer. C'est surtout que les Américains ont négocié leur retrait avec les talibans parce que l'optique était le retrait coûte que coûte. Et d'ailleurs, Biden l'a dit très clairement et c'est dans la continuité de la politique de Barack Obama puis de Donald Trump. Donc je ne crois pas que le renseignement américain soit naïf ou ait manqué quoi que ce soit. Simplement, l'objectif était le retrait Et finalement, ils ont accepté la formule d'un retour des talibans. Ils ne le disent pas publiquement, mais c'est quand même très clair. Et d'ailleurs, ils coopèrent avec les talibans aussi dans la lutte contre l'État islamique. Bon, c'est des points un peu plus sensibles, un peu plus controversés, mais... Il n'y a aucune faille du renseignement américain sur ce qui se passe en Afghanistan depuis des années. On parle là de politique et de choix stratégiques. Maintenant, en effet, ce qu'on peut dire, c'est que cette solution qu'ils ont trouvée, qui est une solution catastrophique, ils ne savent pas eux-mêmes ce que ça va donner. Et bien évidemment, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup appellent à la démission du directeur de la CIA, etc. Est-ce que ça marque finalement le début d'un nouveau cycle de 20 ans ou plus, où on va encore se retrouver dans une situation qui est une impasse. Juste une chose, peut-être, on ne reviendra pas, à mon avis, à des engagements militaires conventionnels comme ceux qu'on a connus au cours des 20 dernières années. En réalité, pour répondre à votre question, la seule manière aujourd'hui de gérer, c'est de faire du containment, de l'endiguement, donc par des frappes ciblées, comme c'est déjà le cas sur un certain nombre de personnalités de ces mouvances djihadistes, sur un certain nombre de lieux d'installations stratégiques, et du renseignement. Mais ça ne va pas contenir la violence. Et le problème, je finis sur cet aspect, c'est qu'on n'a pas du tout de coopération multilatérale claire sur l'enjeu du terrorisme, au-delà des objectifs qui sont ceux des Nations Unies. On voit bien que le bât blesse au niveau multilatéral.
Alors, un commentaire, Elie Tenenbaum.
Oui, non, ça va être plus compliqué. La communauté du contre-terrorisme, notamment américaine, mais pas uniquement, a beaucoup évolué depuis les attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, le dispositif de renseignement et d'action, notamment de frappe, est beaucoup plus efficace, mais il ne peut produire que ce qui sait produire, c'est-à-dire de l'élimination, de l'attrition chez l'adversaire, et finalement pas fondamentalement d'effet politique. Et là, on en revient véritablement à ce que Myriam Benrad disait au début de l'émission, c'est-à-dire ce que ça a produit ces 20 ans de guerre en termes de déstructuration politique des États locaux, qui finalement sont forcément les partenaires avec lesquels les Occidentaux vont devoir travailler s'ils veulent non seulement contenir, endiguer la menace, mais à un moment donné offrir quelque chose d'autre aux populations cibles qui sont les terreaux de recrutement des djihadistes. Et ça, finalement, c'est un enjeu pour la diplomatie, un enjeu pour l'engagement politique. Et c'est là-dessus que, finalement, il y a une forme de renoncement à ne pas parvenir à faire émerger des États qui ont une forme de pacte social renouvelé, qui répondent au moins en partie aux raisons, aux conditions d'émergence et de succès des djihadistes. Et ça, c'est le vrai défi, que ce soit en Asie centrale, avec l'Afghanistan, mais au-delà, avec un certain nombre de régions, en fait, de pays qui pourraient être concernés, au Moyen-Orient même, avec quel type de gouvernance on va avoir en Irak, en Syrie, et puis dans des régions qui nous concernent plus directement, au Sahel. Évidemment, si on n'a pas à un moment donné des gouvernants, des partenaires sur le terrain qui méritent d'être soutenus, le contre-terrorisme en tant que tel, il continuera à frapper dans le vide, et pire que ça, à produire une forme de frustration, parce qu'il y a forcément des dommages collatéraux, parce qu'il y a forcément des gens qui souffrent quand on produit de la violence, de l'élimination, de l'action militaire, ça a un coût. Et derrière, si ça se fait dans un vide politique, eh bien, c'est contre-productif.
Marc Ecker, en guise de conclusion.
Guise de conclusion, tout ça n'est pas très optimiste. Et encore une fois, je crois qu'on n'en a vraiment pas fini avec cette menace. Et je crois qu'on aurait vraiment tort de s'en désintéresser.
Merci Marc Ecker. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère et co-auteur avec Elie Tenenbaum de La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle. Chez Robert Laffont, Elie Tenenbaum, donc directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, et Myriam Benrad, que nous avions par téléphone, politologue, professeur associé en relations internationales à l'Institut libre d'études des relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient. Son dernier ouvrage, Terrorisme, les affres de la vengeance aux sources liminaires de la violence, qui vient de paraître aux éditions Le Cavalier Bleu. Géopolitique, qui était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous poursuivrons sur les conséquences en Irak et en Afghanistan des interventions militaires américaines en riposte aux attaques du 11 septembre.